À ciel ouvert sur RVR avec aujourd'hui Claude Janin, Michel Lebrun, Jean-François Matré et Jean-Luc Regret.
Bonjour chers auditeurs de RVR et d'À ciel ouvert en particulier. Autour de la table, les camarades Michel, Jean-Luc, Claude et moi-même. Tout simplement, pourquoi camarades? Parce que nous allons parler de mai 68 et c'était un mot assez usité à l'époque, sous des formes diverses, qui se déclinait sous des formes diverses. Le plus souvent, dans certaines manifs, ça consistait à dire « libérez vos camarades », on ne savait pas forcément lesquels, mais enfin, bon, si c'était Conun Bendit. Mais bon, c'était tout à fait un mot utilisé à cette époque-là. Bon, on ne va pas simplement en rester là. On va se donner l'occasion, non pas faire une réunion d'anciens combattants, parce que ça n'est pas forcément le cas, mais une réflexion sur cet événement, à la fois pour savoir en quoi il a consisté, quelle a été sa finalité, quelles sont les différentes péripéties, et puis bon, simplement, on n'est pas là pour faire ni l'apologie, ni un dénigrement systématique, mais comme à chaque fois, réfléchir un peu, hein, sans prétention particulière. Simplement, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en juin 1968, un sociologue, ou un intellectuel, on va l'appeler, on peut importe la façon dont on va le baptiser, qui s'appelait Michel de Certeau, dans Études, avait écrit une forme, enfin, avait écrit la chose suivante. En 1789, on a pris la Bastille. En 68, on a pris la parole. Bon, sur le moment, cette formule m'avait paru un petit peu creuse ou presque, mais finalement, elle est beaucoup plus significative qu'on pourrait le croire, je pense. Et on verra si, justement, cette prise de parole qui a été manifeste au cours des événements de 68, et quand on parle de mai, il faut inclure aussi juin, hein, puisque ça s'est prolongé, donc avec différentes péripéties. Cette prise de parole, est-ce qu'on a parlé pour ne rien dire de significatif? Est-ce qu'on a parlé pour être récupéré d'une manière ou d'une autre dans différentes orientations? Ou bien est-ce que cette parole finalement presque inutile a pu avoir des conséquences, des répercussions au niveau des comportements, au niveau des idées? Voilà en somme l'objet de notre débat aujourd'hui. Alors, je ne vais pas donner la parole, il suffit de la prendre. Alors, qui veut prendre la parole, justement, pour être conforme à ce que nous avions dit précédemment?
Bien, moi, j'aimerais bien prendre la parole, parce que, étant le plus jeune sur le plateau, j'aimerais vous lancer une question, vous qui avez plus ou moins vécu les événements où, en 68. Comment avez-vous perçu mai 68 pour vous? Est-ce que c'était une révolte anti-autoritaire d'une jeunesse contestataire? Est-ce que c'était un mouvement social d'une ampleur inégalée à ce jour? Est-ce que c'était un premier coup de boutoir contre une société de consommation? Ou est-ce que c'était tout simplement une révolution? Je lance la question sur le plateau.
Alors, une révolution, il ne me semble pas. Moi, je dirais... Pour moi, mai 68, c'est associé, ça dépasse la dimension des simples événements. C'est-à-dire, c'était associé à l'émergence et à l'amplification dans le monde, d'ailleurs pas qu'en France, d'un mouvement humaniste, c'est-à-dire et de valeurs humanistes qui venaient sur le devant en disant, voilà, la société, alors ça rejoint peut-être cette contestation de la société de consommation, c'est-à-dire une société ne peut pas être basée que sur l'économie. Il faut aussi l'épanouissement de l'individu, il faut aussi que chacun puisse s'exprimer. Et il me semble que c'est... Alors je ne saurais pas dire si mai 68 a été un déclencheur ou si, enfin dans le monde, hein, ou si ça a été le résultat en quelque sorte de tout ce mouvement, de toute cette ambiance humaniste, je dirais, de l'après-guerre, parce qu'on n'était pas si loin que ça après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, pour moi c'est un peu cette idée-là qui reste et que j'ai encore en tête, quoi.
Pour resituer simplement... À l'époque, vous étiez...
Alors à l'époque, moi j'avais 14 ans, j'étais en troisième, donc j'ai fait partie d'une génération particulièrement talentueuse, puisque pratiquement tous ont eu le BEPC à l'époque, sans avoir passé beaucoup d'épreuves. Donc voilà. Oui, et puis... Je dirais sous forme d'anecdote, j'étais collégien à Montpellier, Palavas c'est pas loin, donc il n'y avait pas besoin d'arracher les pavés et de les jeter sur les CRS pour trouver la plage. Voilà,
donc vous aviez la plage.
Donc en fait, je pense qu'à Montpellier, il y a eu effectivement de l'expression, il y a eu des choses intéressantes et, ou importantes ou qui peuvent être discutées ou critiquées qui se sont passées. Malgré tout, c'était quand même dans une ambiance relativement sereine, de ce que j'en ai vécu.
Mmh. Michel,
Pour ma part, c'est vrai que je peux dans un premier temps, c'est décrire un peu comment je l'ai vécu.
Oui, voilà. Oui.
Alors, j'avais un parcours un peu particulier dans la mesure où je suis sorti de l'école, j'avais à peine 17 ans. J'étais fraiseur et puis le métier me convenait pas tout à fait et je me suis inscrit au cours du soir et là j'ai découvert les études. Je les avais pas découvert dans le système scolaire, je les ai découvert dans les cours du soir avec des profs extraordinaires. Des cours qui étaient organisés sur la région parisienne, organisés par la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux. Et ça m'a amené à passer un brevet de technicien supérieur et ensuite rentrer donc sur dossier et sur discussion. Je suis rentré donc à l'INSA, à l'école d'ingénieurs de l'INSA de Lyon. D'accord. Et c'est là que j'ai vécu les événements de 68, j'avais 23 ans. Avec un peu de surprise, parce que pour moi, la République c'était fabuleux. Je rentrais dans une école d'ingénieur avec mon dernier salaire en tant que fraiseur. Donc la République, à l'aide de ses citoyens, d'une manière remarquable. Oui. Hein, c'était vraiment la promotion au sens même de la grande évasion, ce qu'on appelle, c'est-à-dire se promouvoir dans la société. Ouais. Et là, avoir des études...
Et la notion de mérite, disons...
Et oui, et la notion de mérite. Et se retrouver étudiant à plein temps, alors qu'en fait, je faisais 42h30 et j'étudiais après, se retrouver comme étudiant à plein temps, c'était fantastique. Et tous ces jeunes cons qui refusaient, qui trouvaient l'opportunité de pas aller en cours, ça m'a un peu surpris, quoi. C'est vrai que, alors bon, j'ai quand même découvert effectivement des mouvements syndicalistes, des réflexions, des discussions intéressantes, mais quand même très très manipulées. Et bon, j'ai plutôt j'ai utilisé mon temps d'une façon peut-être un peu égoïste à l'époque, quoi. Alors, comme j'avais jamais fait de sport, j'ai acheté une raquette de tennis, j'ai couru, j'ai fait plein de choses comme ça. Il m'a fallu effectivement quand même réfléchir longtemps après pour essayer d'analyser un petit peu tout ce que j'avais vécu à l'époque, toute cette la manipulation. Et ce qui ressort, c'est que ce qui ressort pour moi, quoi, c'est on a tous ce désir de bonheur, on désire tous l'émancipation de l'être humain, mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, on perd aussi quelque chose, quoi. Et ça m'a aidé aussi bien à comprendre Tocqueville quand il parle de l'ancien régime et du nouveau régime, de la suite de la révolution, quoi. Cette émancipation, cet humanisme aussi, hein, qui est extraordinaire, il peut avoir des effets très pervers, et il a souvent des effets extrêmement pervers dans la manière de le conduire, parce qu'on arrive sur des formes de dictature aussi, qui sont tout à fait effrayantes et qu'on voit poindre aujourd'hui. Donc on est bien dans la continuité, hein. C'est vrai qu'il y a une certaine rupture de mai 68, provoquée justement au moment où on a commencé à parler de liberté. Mais c'est plus, on a travaillé beaucoup plus dans l'égalité, on a perdu beaucoup de liberté depuis.
Exactement.
Alors est-ce que, fait justement que l'humanisme peut amener une certaine forme de dictature, moi je dirais, est-ce que toutes les idéologies, à un moment donné, si elles dérivent, ne peuvent pas amener cela? C'est-à-dire, on peut le retrouver dans des idéologies beaucoup plus libérales.
Et surtout les utopies.
Et aujourd'hui, justement, je pense qu'on est un peu à un tournant. Est-ce qu'on n'est pas dans la fin de ce cycle d'humanisme dans la société, où justement, c'est certaines valeurs beaucoup plus économiques ou autres qui sont mises en avant? Mais voilà, bon là on sort peut-être du sujet,
oui.
Mais on est peut-être à la fin du cycle de mai 68 de ce côté-là.
On reviendra, on va commencer par le début.
Voilà.
Partant de là, moi j'avais 20 ans en mai 68, donc le 4 mai je fêtais mon anniversaire, tranquille, les événements sur Paris, puis qui commençaient à poindre ne nous préoccupait pas particulièrement. Et puis, de fil en aiguille, il y a une information plus ou moins diffuse au niveau des amphis, qui avaient des étudiants arrêtés, des choses comme ça. Bon, je rappelle le prétexte, c'est initial, il est bon quand même resituer le mouvement du 22 mars, dirigé de fait, parce qu'il fallait des tribuns, par Cohn-Bendit, enfin du moins c'était le porte-parole le plus brillant, on va dire. Hein, il avait l'art de la rhétorique et de ce fait, même il était entre guillemets respecté même par ses adversaires, entre guillemets idéologiques, hein, on va dire. Bon, donc était fondé sur différentes raisons. Il y a toujours le contexte de la guerre du Vietnam aussi à l'époque où il y avait des manifestations antérieures à 68 contre la guerre du Vietnam, contre les Américains, contre l'impérialisme américain, etc. Mais l'une des causes initiales à Nanterre, ça a été le fait que les garçons, les étudiants, n'avaient pas accès, disons, aux appartements des filles. Les filles pouvaient éventuellement aller voir les garçons. Bon. Et dans cette perspective-là, Cohn-Bendit avait un peu le porte-parole d'un ministre, enfin, pas à l'égard d'un ministre qui, je crois qu'il s'appelait Missoff, et qui avait justement évoqué cet aspect-là en laissant entendre que finalement c'était dérisoire et qu'on ne parlait pas de thème de sexualité. Enfin de ce... Bon, voilà l'origine. De cette origine, il y a eu donc un mouvement à Nanterre, et de Nanterre, la fac, à cause des désordres occasionnés par des rivalités estudiantines, eh bien, on est passé à la Sorbonne, où il y a eu une occupation de fait, comme le disait Cohn-Bendit, c'est-à-dire qu'on a voulu trouver un appui, puisqu'on était vidé de Nanterre, un appui à la Sorbonne, et de fil en aiguille, on a atterri à la Sorbonne. Voilà en somme comment la genèse des événements. Donc vous voyez, on peut dire, c'est comme souvent dans le cadre des événements historiques, un petit fait peut déterminer des causes, enfin des conséquences particulièrement importantes. Hein. Bon. Voilà, en somme, l'événementiel. Donc, à Lyon, personne, à part de certains mouvements trotskistes, maoïstes, etc., qui, bon, pensaient faire la révolution, ont essayé un petit peu de récupérer les événements. Mais il y avait une sorte d'indifférence générale à cet événement.
Il pleuvait très fortement. Il pleuvait en plus. La déclaration générale de grève, il pleuvait énormément. C'était un lundi matin,
je crois. Oui, ça devait être un lundi. Donc
il pleuvait énormément et personne n'avait envie de se lever.
Personne, hein. Voilà. Donc il n'y avait pas d'enthousiasme débordant. Mais de fil en aiguille, la répression qui a eu lieu assez rapidement, hein. Disons, on a emprisonné Cohn-Bendit et d'autres, enfin, c'était les figures entre guillemets qui étaient un peu connues. Il y avait aussi Gessmar, Sauvageau, enfin bon, ok. Gessmar, c'était le secrétaire de. Enfin, c'était le dirigeant du. Des enseignants, je sais pas, enfin bon. Et puis, Sauvageau, enfin, Sauvageau, c'est celui du Nef. Bon, donc, de fait. Cette répression assez forte, enfin disons assez radicale, le fait qu'ils soient emprisonnés, etc., et puis l'art aussi de la mise en scène des intéressés, a fait boule de neige dans l'idée d'une solidarité, toute bête. Hein. Libérez vos camarades, nos camarades, on ne sait même pas de qui s'agissait, mais enfin bon. Et avec cette perspective qu'il y avait non seulement cette idée de libération d'individus, mais aussi, parallèlement, s'est libéré en partie la parole. Une parole qui était autorisée, enfin c'est pas la dictature, mais une liberté d'échanger des idées, de dialoguer, qui avait une bonne... qui finalement était bien perçue par la population environnante. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de tout avec des gens qu'on rencontrait dans la rue, qui n'étaient pas forcément étudiants, qui étaient... Hein, et ce dialogue, cet état d'esprit, cette volonté un petit peu de refaire le monde, mais d'une façon intelligente, d'une façon pas du tout agressive, etc., c'est l'aspect qui m'est apparu le plus intéressant dans le mouvement de mai 68. Mmh. C'est-à-dire que ça a été l'occasion, comme le disait De Certeau, d'une libération de la parole pour vouloir que les choses changent, mais alors avec, il y avait les différentes lectures des événements, il y avait des récupérations, il y en avait qui voulaient jouer les gardes rouges sur le modèle des maoïstes, et vous voyez ce que ça pouvait donner, on ne le savait pas encore exactement dans la manière dont Mao Tse-tung avait manipulé ces fameux gardes rouges, mais ou d'autres, la perspective trotskiste ou différentes appellations anarchistes et tout, mais l'aspect intéressant, c'était la notion de dialogue. Et c'est cet aspect donc que j'ai retenu au départ de mai 68, après les grandes récupérations politiques ou syndicales qui ont eu lieu après. Mmh. Hein. Mais donc on a vu que, et il faut rappeler d'ailleurs qu'au départ, les adversaires ceux qui étaient les plus réticents à l'égard du mouvement étudiant, c'était pas simple, pas forcément le pouvoir en place d'une façon significative. Il y avait pas, surtout en province, ça se passait plutôt calmement. Il y avait pas de bon, hein. Mais ça a été plutôt les gens de la CGT ou d'autres, certains syndicats qui refusaient le principe qu'il puisse y avoir une certaine affinité de pensée entre les étudiants, les ouvriers ou d'autres catégories de population.
Vous êtes bien à l'écoute de RVR dans À ciel ouvert, spécial mai 68.
Moi, si tu le permets, Jean-François, je voudrais revenir sur ce que tu parlais des événements le 22 mars 68. Cohn-Bendit, certes, il y a le dortoir des filles qui devait être ouvert à un certain appel à la liberté sexuelle, mais il revendiquait avant tout, et d'ailleurs, j'ai pris de la documentation là-dessus, Daniel Cohn-Bendit a lancé au micro d'Europe ce même jour-là, nous voulons que soit possible dans toutes les facultés l'expression politique à l'intérieur de ces murs. Donc la revendication de l'expression était déjà là.
Oui, enfin, c'était une façon, l'expression politique elle existait d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas d'interdit au niveau de l'exposé des idées en faculté. Mmh. Il n'y avait pas. Hein. Mais disons que ce qu'il voulait, lui, c'est transposer ce qu'il avait acquis dans sa scolarité, qui était un peu particulière, Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, il n'a pas suivi tout à fait un circuit habituel au niveau de la scolarité. Il est allé dans une école expérimentale, un peu style des libres enfants de Summerhill, enfin c'est pas exactement ça, mais disons, hein, où il y avait une approche un petit peu libertaire, enfin disons de là. Et dans une certaine mesure, cet état d'esprit, c'est ce qui lui donnait une certaine assurance d'ailleurs. Hein, par rapport à la moyenne des étudiants de l'époque, qui étaient, quelle que soit leur qualité, mais qui étaient quand même beaucoup plus réservés, on va dire, eh bien, Cohn-Bendit a voulu transposer cela au niveau de la fac. Il y avait aussi le contexte aussi, on va dire, économique à Nanterre, puisque c'était à Nanterre, et à Nanterre, il y avait des bidonvilles, il y avait en quelque sorte des... Enfin, disons, au niveau du contexte économique, c'était aussi une situation qui n'était pas très très favorable. Et donc les étudiants étaient aussi, disons, en contact avec cet environnement social et économique.
Après, moi sur... peut-être aussi par rapport à mon âge de 14 ans à l'époque... Je dirais, j'étais. C'est vrai que quand j'ai vu, alors c'était un peu pareil, c'est-à-dire que quand j'ai vu démarrer le mouvement, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai qu'à 14 ans, bon,
oui.
Au rugby, voilà quoi. Enfin, on s'intéressait. Enfin, je m'intéressais quand même à ce qui se passait dans la société, mais j'étais pas dans une. Ce qu'à l'époque, parce que c'est aussi à cette époque-là qu'est sorti, enfin qu'est née l'expression conscientisation politique. C'est-à-dire que. Comme quoi, dans la société, il pouvait y avoir des gens qui étaient conscients des enjeux politiques et qu'il fallait que tout citoyen le soit. Mais c'est vrai que, et c'est pour qualifier un peu par rapport à la question de départ, là, sur est-ce que c'était une révolution, qu'est-ce que c'était, moi, je dirais que c'était un tournant. C'est-à-dire que j'ai pas participé directement aux événements de mai 68. Je les ai vécus dans mon quartier, avec une ambiance sympa, parce que c'est vrai que le soir, ben, du coup, il n'y a pas de télé, on jouait à la blotte, on se retrouve entre voisins, il y avait une super ambiance dans l'immeuble. Mais je dirais qu'après mai 68, j'ai vu les choses changer, et je pense que ça a été un tournant important. C'est-à-dire un tournant à partir duquel on a pensé pendant quelques décennies qu'on ne pouvait jamais revenir en arrière par rapport à cette volonté et ce souhait d'une place de l'humain différent et plus prise en compte dans la société. Donc voilà, plutôt qu'une révolution, qui d'ailleurs...
Mais ce n'est pas une révolution.
Voilà, de certaines manières d'ailleurs est un tour à 360 degrés sur soi-même, si on regarde complètement le sens du terme. Ouais. C'était plutôt un tournant, et un tournant... où il y a certes, il y a eu des excès, certes, il n'y a pas eu que, comme dans tout mouvement, comme dans toute situation, il y a à apprendre et à laisser. Mais malgré tout, ce tournant, il a apporté une autre manière de penser dans la société, de s'exprimer dans la société, et effectivement, la parole qui était peut-être plus reconnue, alors, prise d'une certaine manière par les citoyens, et par les jeunes, et mais aussi peut-être plus reconnue par les institutions. Parce que du coup, moi, quand on a eu la rentrée scolaire après le mois de septembre suivant, eh bien, la direction du collège nous a dit bon, ben maintenant, vous allez désigner des délégués. Il n'y avait jamais de délégués, donc il y a eu vote dans les classes pour désigner des délégués. Je me suis retrouvé un des deux délégués désignés. On s'est retrouvé dans un comité de gestion du collège, quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé avant. Et on nous a demandé notre avis en tant qu'élèves, en disant voilà, quelles sont vos propositions ? On était un peu embêtés parce qu'on s'y attendait pas, et puis on n'avait pas de revendications auparavant, voilà, parce que pour nous ça tournait comme ça, puis on pensait toujours que ce qui était établi devait continuer comme ça, hein. On était aussi dans cette logique là mais voilà, je pense que ça a été un tournant où non seulement effectivement il y a eu cette prise de parole et cette idée que chacun doit prendre la parole s'il le souhaite, mais aussi une certaine reconnaissance des institutions pour dire ouais, bah, effectivement aujourd'hui on peut peut-être ne plus faire comme si il n'y avait pas de parole à écouter, quoi.
Faut aussi voir qu'on sortait des 30 glorieuses, on était dans les 30 glorieuses. Donc, les questions de chômage en sortant de l'école se posaient pas. Le boulot, on en avait. Enfin, tous ceux qui voulaient se relever les manches et avaient du travail. Hein, donc, c'était, effectivement aussi l'explosion de la société de consommation. Donc, on arrivait dans une situation de confort, on va dire, même s'il y avait des bidonvilles, s'il y avait aussi des exclus. Mais, globalement, on se retrouvait dans une situation de confort. Et dans cette situation de confort, c'est là où on commence à revendiquer à propos, hein, réfléchir. Mais l'influence de 68, parce que derrière 68, après, on s'est retrouvé très rapidement dans la grande crise pétrolière, qui, elle, a certainement, économiquement et au niveau de la société, nous a impacté énormément, quoi. Hein, faut voir qu'à ce moment-là, c'est là où on a commencé à passer des accords avec l'organisme, l'équivalent de l'ONU des pays musulmans.
Oui.
C'est l'OCI ou quelque chose comme ça, l'organisation, je ne sais plus le nom exact. Bon,
Il y avait aussi l'OPEP au niveau du pétrole et
oui,
tout ça.
Oui, voilà. Oui, bien sûr, mais disons qu'il y avait l'organisation mondiale, c'est-à-dire que quand on a apporté beaucoup de travailleurs, migrants musulmans, on a fait des accords et qui fonctionnent toujours avec les accords qui s'appellent ISESCO, dans lesquels, effectivement, on s'est engagé à construire des mosquées, on s'est engagé à enseigner l'arabe en France, et ces accords fonctionnent toujours aujourd'hui, quoi. Donc là, on a, derrière cette période très faste, il y avait quand même des nuages à l'horizon qui se pointaient, quoi, hein, très fort aussi, hein, et c'est vrai que ça bousculait fortement la société, donc ça a un impact, effectivement. Ça a permis de libérer de la parole, d'impliquer les jeunes plus rapidement dans la société. Non, mais bon,
pour
relativiser quoi, l'impact.
Relativiser, oui et non, parce que du coup, on peut se dire s'il n'y avait pas eu justement une manière de repenser différemment la société au moment où il y a le choc pétrolier. Ouais. Est-ce que ça serait plus mal vécu ou mieux vécu ? C'est-à-dire que le fait aussi que chacun puisse s'exprimer, qu'il y ait plus de responsabilités dans les entreprises, parce qu'il y a quand même eu des choses qui en sont ressorties. Je pense, moi il me semble qu'il s'est passé des choses. Enfin, moi, je me rappelle le fameux slogan qui était ressorti à l'époque, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, quelque part, s'il n'y avait pas eu cette ouverture un peu plus forte pour que les gens puissent s'exprimer... Comment se serait vécu le choc pétrolier ? Est-ce qu'il n'aurait pas été subi par une partie de la population plus qu'il ne l'a été là ? Parce que, même s'il y a eu des incidences graves, hein, effectivement, le chômage est devenu un problème majeur. Mais il a vraiment explosé plus tard, quand même. Quoi. Donc, il reste le doute, quand même.
Dans le management des entreprises, je ne sais pas si au jour... Alors, effectivement, le choc pétrolier est de l'incidence, parce que... faut voir que dans les 30 Glorieuses, on a beaucoup... Enfin, l'industrie qui s'est développée en France... pour l'essentiel, c'est développé sur des technologies qui ont été beaucoup de technologies militaires, mais qui n'étaient pas françaises. Hein, faut se rendre compte. Même le nucléaire français, le CEA, n'a pas eu d'impact direct, c'est Westinghouse, hein, c'est américain, quoi. Donc, alors que très rapidement, ensuite, dans ces technologies, elles imposent, dès lors qu'on demande de l'innovation, et c'est ce qui s'est passé dans les années suivantes, parce que économiquement, tout est changé, et aujourd'hui, on ne voit pas une start-up fonctionner comme les sociétés de la vieille industrie qu'on avait à l'époque, où il y a le patron divin, et puis derrière, ça suit, quoi.
Voilà, il y a effectivement, il y avait aussi un contexte particulier dans lequel les ouvriers étaient très importants. C'est-à-dire qu'en nombre, hein, disons, quand le Parti communiste ou la CGT estimait être le parti des ouvriers, bon, même si c'était pas une appellation toujours contrôlée, il n'empêche que c'était un pouvoir réel. C'était la preuve, c'est qu'ils ont été débordés, justement, après. Donc, disons qu'il y a deux phases. Hein. Il y a la phase étudiante, manifestation, répression, liberté d'expression, enfin tout ce qu'on veut, hein, qui était un peu la perspective intellectuelle, hein, enrichissante, où les gens avaient la volonté, avec des finalités très différentes. Il y avait des trotskistes, des maoïstes, des gens comme ça, ou n'importe qui, ou prise de conscience politique. Alors c'est vrai que le terme de la politisation, la conscience politique, c'était un peu à la mode, mais c'était le fait de réfléchir surtout, de penser, d'essayer de penser par soi-même. Donc a priori, c'est pas une mauvaise chose, ça, dans l'idée.
Ah bah, tout à
et
fait.
Avec une tolérance.
Et c'était l'époque du PSU, avec le regard et tout ça. Hein, quoi,
oui. C'était l'idée, voilà, l'idée
l'autogestion.
D'une tolérance, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions animées, mais il y avait des discussions. Personne ne se tapait dessus, d'une phase au départ. Hein, disons qu'il y avait des manipulations diverses et variées, des mots d'ordre bon, un peu douteux si on veut, mais globalement, bon, le contact s'est fait avec les forces de l'ordre après, ou lorsque le mouvement s'est établi, s'est généralisé. Et après, il y a eu la phase ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a eu des grèves, alors des grèves d'opportunité aussi, hein, dans le sens... Bon, on n'est pas content. Et puis, il y avait un contexte social aussi qui pouvait s'expliquer. Donc, on n'est pas content du patron, tout ça. Et ça s'est élargi, on a donné d'autres perspectives. Et la CGT, en particulier, ne pouvant pas canaliser le mouvement, était plutôt contre, hein, plutôt réservé, surtout vis-à-vis des étudiants. Il faut savoir que celui qui a dit, qui avait laissé entendre que Cohn-Bendit était allemand, c'est pas au niveau du pouvoir en place, gaulliste, etc., que ça a été sorti. C'est Georges Marchais. C'est Georges Marchais a dit c'est un agitateur allemand qui vient semer la pagaille, un petit bourgeois qui vient semer la pagaille en France et tout ça, et qui n'est pas du tout représentatif du monde ouvrier. Hein? Donc, il y a eu cet antagonisme. Alors, quand il y a eu cette volonté, pour certains, que je jugeais un peu stupide, hein, de vouloir, entre guillemets, s'approcher du monde ouvrier, de travailler comme des ouvriers, comme un jeu, vous voyez, de découverte, bon, d'une façon, avec des idéologies, alors maoïste ou trotskiste, comme vous voulez, comme appellation, bon... Eh bien, c'est que ça rigolait plus du côté de la CGT ou d'autres mouvements qui étaient censés représenter les ouvriers. Il y a eu même une opposition assez ferme. Ce qui fait que la dernière phase du mois de mai, c'est pour ça qu'on parle du mois de mai mouvement étudiant, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'idée qu'il y a eu les grandes grèves générales, les revendications, le blocage de l'économie, et puis ensuite, les négociations. À partir du 24 mai, moi je pense que ce qui a déterminé, et surtout si on revient à Lyon, donc les manifestations se faisaient plutôt bon enfant, ça tapait pas trop sur les flics en général.
Avec quelques casseurs, parce
qu'il y avait quelques casseurs qui en profitaient.
Ils ont lancé un camion.
Ah oui, non, le 24 mai, justement, c'est à partir du 24 mai. Mais jusqu'alors, il y avait des manifestations, bon, un petit peu folkloriques, tout ce qu'on veut, mais enfin, c'était pas bon. Mais le 24 mai, justement, c'est là où il y a eu le drame. Hein, c'est-à-dire le commissaire Lacroix, c'était sur le pont Lafayette, ouais, dans la préfecture, qui est mort. Alors, à la suite d'un camion, alors, il y a eu différentes interprétations, mais enfin, peu importe le résultat elle-même. Hein, donc, il y a un camion dont l'accélérateur était bloqué par une pierre et qui a atterri contre le commissaire Lacroix, qui en est mort, alors, soit directement, soit indirectement, qu'il ait une crise cardiaque, ou que ce soit le camion qui lui passait dessus, mais il n'empêche que ça a été le mort. Alors, donc, ceux qui étaient censés avoir fait avait commis ce délit, bon, n'étaient pas des étudiants. C'était des gens qui avaient participé casseurs, à la manif des casseurs et tout ça, qui avaient profité de l'occasion. Et alors moi, je me rappelle bien, moi j'étais de la manifestation au départ le 24 mai. Hein, c'est-à-dire, bon, processus habituel vers la préfecture et tout ça. Mais quand j'ai vu, et c'était pas du tout par lâcheté, mais c'est par, disons, analyse de situation, que le but recherché, c'était, quand je voyais que les gens arrivaient avec des baramines ou des trucs comme ça, non pas pour aller dévaliser des magasins ou des choses de ce genre, bon, on voyait que c'était plus de la revendication politique, c'était de l'agressivité pure, sans motif, et je suis reparti à ce moment-là. J'ai traversé toute la rue de la République, à l'époque, était immense, et j'ai vu justement, quand je suis remonté, j'habitais la Croix-Rouge, j'ai vu des gens en train de casser, enfin en train de dévaliser consciencieusement, puisque toute la police était concentrée autour de la préfecture, consciencieusement, un grand magasin de l'époque.
Voilà. Mais moi, je crois que c'est un peu dans tous les mouvements. C'est pour ça que parfois on se dit oui, mais on s'est aperçu que c'était plus de la revendication politique, mais c'était pour casser. C'est une partie. Ça ne voulait pas dire que autres. Voilà. Et aujourd'hui, on le vit encore, ça. C'est-à-dire que c'est ça un peu qui est dommage. C'est effectivement, on peut le regretter, c'est que chaque fois, ça aille plus loin en termes de violence. Mais c'est peut-être pour ça, justement, que je dirais que mai 68 n'a pas été une révolution, parce que à toutes ces occasions-là, ça aurait pu dégénérer en violence.
Voilà, exactement.
Là, il y a eu un mort, il y aurait pu en avoir plusieurs. C'est vrai qu'une révolution...
Au total, apparemment, sur l'ensemble des événements mai-juin, il doit y avoir 7 ou 8 morts, bon, que ça soit direct ou indirect. Hein, sur Sochaux, il y a des ouvriers aussi qui ont eu... Bon, des choses de ce genre, des gens de la police aussi, un ou deux, enfin, dont le commissaire Lacroix. Bon, mais donc... Par rapport au contexte et à la violence, surtout à Paris, parce que bon, à Lyon, mais qui a eu lieu, disons qu'on s'en tire bien, et il y a eu des deux côtés, bon, des gens intelligents pour gérer un peu, bon, pas que Cohn-Bendit, mais enfin, disons, de ceux qui étaient dans cette mouvance un petit peu là, ont essayé avec le préfet Grimaud, bon, d'avoir un modus vivendi, enfin. Plus ou moins contraint, mais enfin qui faisait en sorte que l'idée c'était d'éviter d'aller trop loin, quoi.
Vous êtes bien à l'écoute de RVR dans À ciel ouvert, spécial mai 68.
Michel, oui.
Oui, en fait, dans tous ces mouvements, il y a une dimension derrière où est la limite. Et si dans l'esprit, il n'y a pas de limite à l'être humain, tout est permis. Et on le retrouve, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, quand c'est Bernard Pivot qui avait invité Cohn-Bendit sur son ouvrage.
Oui.
Et là, quand il passe sur le chapitre où il exprime sa pédophilie et il s'exprime ouvertement, on voit où mène la non-limite, quoi. C'est quand même, c'est aussi significatif,
oui.
quoi.
Alors, est-ce qu'il est vraiment pédophile
Non, mais dans la manière dont il l'a exprimé, on voit qu'on est dans des... En fait, il justifie, quoi.
Oui, c'est-à-dire
il justifie, peu importe, mais on voit qu'à un moment donné, c'est toute la subtilité, quoi, l'humanisme, et puis on va trop loin, donc c'est toute la subtilité, mais c'est la vie en permanence, c'est-à-dire trouver le bon équilibre des choses. Hein, c'est jamais dans les deux extrêmes, quoi. Il faut toujours trouver le point clé, quoi.
Et puis c'est vrai qu'au niveau des idées, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une forme de récupération. On a parlé de récupération politique et syndicale du mouvement étudiant avec d'autres objectifs qui est celui des revendications qui ont abouti aux accords de Grenelle, qui était une entente tacite entre Pompidou, qui reprenait les affaires, et puis la CGT, qui n'avait pas l'intention, ou le Parti communiste qui n'avait pas l'intention de prendre le pouvoir, parce que ce n'était pas à l'ordre du jour sous l'influence de l'URSS de l'époque. Hein, disons qu'il n'y avait pas cette démarche-là. Donc, il y a eu cette entente tacite.
C'est pour ça que ça n'a pas été une révolution.
Ce n'est pas une révolution du tout. Mais par contre, ce qu'on peut dire, ça a été une révolte, si on veut. Hein. Vous connaissez la fameuse formule à propos de 1789, justement, revenons-y, c'est quelqu'un, je ne sais plus quel est le personnage qui va avertir Louis XVI en lui disant, bon, il y a la prise de la Bastille, bah oui, bon, quelque chose comme ça, quoi. Alors il dit, bon, c'est une révolte, alors l'autre lui répond, non, sire, c'est une révolution. Eh bien, dans le sens inverse, on pourrait dire, il y en a qui ont cru faire la révolution en 68, ce n'était qu'une révolte. D'abord, pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait l'idée d'une perspective politique possible. Et lorsqu'il y a eu le fameux mouvement à Charletti, où des gens comme Mitterrand ou Mendès France se proposaient de voler la vacance supposée du pouvoir avec le général de Gaulle, qui n'était pas très brillant à l'époque et qui s'est ressaisi après au niveau de la mobilisation des gens, eh bien, l'objectif des étudiants, vous voyez, c'était pas de mettre Mitterrand ou Mendès France au pouvoir.
Mais c'est ça
donc
fait,
on voit oui, mais c'est ça l'idée que c'était de la récupération. Ouais, quoi, ouais. C'était,
oui, mais c'est ça qui en faisait le côté, qui en a fait, de mon point de vue, le côté intéressant. Quoi qu'on puisse penser, effectivement, on aurait pu, certains avaient peut-être d'autres aspirations, j'en suis pas convaincu, mais je trouve que justement, ça a été une révolte sur des conditions de mode de vie et sur des quand on regarde les Grenelles de l'environnement, pas de l'environnement, non, les Grenelles tout court, puisque Grenelles de l'environnement s'en sont inspirés d'ailleurs, c'est un signe. Ouais. On pourrait se poser la question d'ailleurs du pourquoi. Et bien en fait, ça a été un débat de société qu'il y a eu dans ces Grenelles, et c'est-à-dire que c'était justement la place des ouvriers dans les entreprises, c'était la place des étudiants dans la gestion de leur formation, c'était pas d'une remise en cause fondamentale de la société. C'était comment vivre autrement dans les rouages et dans la société.
Oui, alors avec une idée quand même politique.
Ah oui, non, mais évidemment.
Ne pouvant pas maîtriser la situation, on essaye de la récupérer.
Oui.
C'est-à-dire que
oui, mais ça veut dire
l'idée
que
de la participation, par exemple, qu'avait proposé le général de Gaulle après, c'est de dire, et ça n'a pas marché d'ailleurs, disons qu'on peut dire que les événements de mai 68 ont été une victoire politique pour de Gaulle, enfin pour les gaullistes, puisque à la fin, il faut bien aller jusqu'à la fin du mois de mai, le 30 mai, le 29 mai, le discours du général de Gaulle, enfin le radiophonique, pas un discours, une intervention radiophonique, dans laquelle il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée, etc., et puis qu'il reste en place après son petit départ en Allemagne, bon, hein, pour différentes raisons.
Parce avec le coup de massue.
Avec le coup de massue, voilà. Mmh. Mais l'idée, il récupère. C'était un pari. Il récupère donc l'opinion, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'il a gagné. Il a gagné sur le terrain. Et il y a les élections qui vont suivre, vont lui permettre de s'assurer une majorité de députés assez considérable, enfin, etc. Mais finalement, ça aboutira à l'échec de 69, avec sa proposition de participation, qui s'inspire en partie des revendications. En disant, mais finalement, si je reprends à mes adversaires, à ceux qui vous contestaient leurs idées, ça va marcher. Le problème, c'est qu'il est battu, pas forcément par rapport à ses opposants, mais par rapport à ses propres amis. Vous connaissez la formule de Chamfort, le moraliste Chamfort. « Mon Dieu, délivrez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Eh bien, on peut dire que si De Gaulle perd en 69... C'est en grande partie à cause de ses amis supposés, je ne vais pas les mentionner, hein, mais donc on a bien compris que ça a permis à d'autres qui avaient suggéré d'une façon habile l'évolution de mai 68 en accordant un certain nombre d'avantages aux ouvriers, ce qui s'est traduit ensuite par une inflation, mais enfin bon, c'est encore autre chose, mais comme Pompidou, eh ben, ils ont tiré les marrons du feu. Dans une certaine mesure. Vous avez compris? C'est-à-dire que, en fait, on voit que c'est. Alors, on peut dire que c'est une révolution. C'est pas une révolution, c'est une révolte qui a échoué, mais dont les idées, au niveau culturel, ont eu une certaine.
Un impact.
Un certain impact. Alors qu'on peut juger positif ou négatif, voilà. Mais on va dire, sur le plan culturel, il y a eu une victoire, si on veut. Il y a une défaite politique, parce que finalement. À la sortie, si on prend les événements, bah les étudiants, ceux qui voulaient une perspective ouvriériste du mouvement, ils ont perdu. Ils ont été même ridiculisés à la fin. Mais
moi,
dans une
pas,
certaine mesure.
Je ne suis pas trop d'accord parce que je suis.
Dans une certaine mesure. Non, non, mais au niveau.
Non, il y aurait eu des fêtes si ça avait été leur volonté de renverser. Il n'y avait pas cette volonté. Et quand on regarde quand même tout ce qui a été obtenu dans les Grenelles ou dans d'autres, on ne peut pas dire qu'ils aient été ridiculisés. Hein. Sur le plan politique, peut-être, mais pas sur le plan du processus de société, quoi. Et de ce qui s'est engagé à ce moment-là.
Au niveau culturel, ils ont gagné. C'est une défaite politique. Au niveau de ceux qui pensaient pouvoir exploiter, même si ce n'était pas une révolution, politiquement, la mai 68 à leur profit.
Ça, d'accord.
Oui, mais ce qui serait bien de revenir, parce que là, on parle beaucoup du contexte politique de l'époque, mais il faudrait peut-être aussi le regarder du côté social, parce que au niveau ouvrier, le bilan, c'est d'abord un ensemble de conquêtes sociales qui ont modifié la condition ouvrière dans notre pays.
Alors,
si vous me parlez
par exemple,
la condition ouvrière, elle n'était pas folichonne avant 68. Ensuite, on a obtenu quand même des choses, le monde ouvrier a obtenu quand même choses intéressantes, comme la mensualisation des salaires, la reconnaissance de la section syndicale dans l'entreprise, qui n'était pas le cas avant, il n'y avait quand même pas de liberté à ce niveau-là, la création du SMIC s'en est suivie, avec une revalorisation des salaires de 35% accordée par Pompidou par la suite. Ensuite, il y a eu l'indemnisation totale du chômage, qui a été loin de provoquer la catastrophe économique que prédisait une certaine droite et un certain patronat à l'époque. Bien au contraire, ça a été une injection de pouvoir supplémentaire et qui a nourri une croissance de 5,4% par an jusqu'en 75. Donc, on peut pas dire que le résultat s'est soldé par quelque chose de négatif. Et puis ensuite, ça a été tout un long processus d'une série de conquêtes juridiques et politiques qui ont libéralisé les rapports entre les sexes, les générations, les gouvernants, les gouvernés. S'en est suivi la liberté de contraception, l'avortement. Et puis alors, une chose aussi...
Oui, mais alors, le lien n'est pas de cause à effet. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, on peut faire un bilan comme ça... Mais il n'y a pas
c'est
un
une suite
lien...
de domino.
Voilà, mais il n'y a pas un lien direct. À part les accords de Grenelle qui, au départ, ont été refusés. C'est-à-dire qu'il y a eu une négociation entre la CGT ou d'autres partis, enfin d'autres syndicats, et Pompidou ou Chirac. Ouais. Mais finalement, ils ont été refusés. Ils ont été refusés par la base. Donc, ce qui a été mis en évidence, c'est surtout le pouvoir, on va dire, des individus. Des gens qui, à tort ou à raison, peu importe leur motivation, mais voulaient pas simplement un changement politique, le passer de la droite à la gauche ou vice-versa, enfin, c'était pas cette finalité-là, mais exister différemment dans l'entreprise. Donc l'idée de la participation, ça a permis effectivement d'une façon ou d'une autre, hein, de se donner une perspective de liberté qui n'existait pas auparavant. Mais on ne peut pas dire que tous les acquis qui ont été mentionnés ici sont en ligne directe avec mai 68. Ça a été un processus.
C'était une amorce.
Un mouvement. Moi, c'est ce mouvement humaniste de dire l'homme doit avoir une autre place dans la société, dans l'économie. Qui, à mon avis, a laissé des traces. Et sous forme de boutade, j'étais en train de réfléchir, je me disais, s'il n'y avait pas eu mai 68, est-ce qu'on serait là autour d'une table, dans une radio locale? Faut se rappeler quand même le monopole qu'il y avait avant mai 68 au niveau des ondes et des télévisions, quoi. Et la libération. Alors même si c'est pas après mai 68 qu'il y a eu les radios libres ou autres, si c'est dans les années 80, mais malgré tout, il y a eu ce mouvement créé, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on serait là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu...
Il y avait toujours des possibilités de liberté, et la technologie les offre un peu plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, entre la France est à la, combien déjà, 36e place en termes de liberté de la presse. Donc je ne sais pas si on a beaucoup gagné, mais bon. Et sur l'autre dimension, il y a eu quand même derrière une période inflationniste monstrueuse, c'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance, moi j'en ai connu des gens qui avaient acheté leur maison avant 68, ils s'en sont bien sortis. Derrière, il y a eu de la misère. Donc c'est pas les analyses sont, faut vraiment les fouiller, quoi. On peut pas lister comme ça des points.
Sauf que quand les salaires suivent l'inflation. Ouais. En général, c'est ce qu'on dit, c'est souvent ce que disent les économistes, hein, c'est-à-dire que l'inflation fait gagner de l'argent aux salariés et l'austérité fait gagner de l'argent à ceux qui placent l'argent. Voilà, donc l'inflation, pour ceux qui effectivement ont les salaires qui ont suivi, justement, sont devenus, ont augmenté en pouvoir d'achat parce que leur maison devenait moins chère, etc.
Ça,
quoi.
Par contre, ça dure qu'un temps, et derrière, c'est la catastrophe. Parce que là aussi, quand l'inflation, il faut se souvenir de l'Allemagne, quand l'inflation, on était sur des milliers de pourcents par jour.
Oui, non, mais là, c'est autre chose.
Oui, mais c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe à maintenir.
Alors, comme toute bonne chose a une fin, y compris l'idée d'un mouvement, donc une émission de radio aussi, on va conclure notre débat sur mai 68, qui n'avait pas la prétention de faire une analyse absolue ou de fixer une perspective politiquement correcte de l'événement, mais de réfléchir justement sur l'influence relative de ce mouvement sur les idées, sur les comportements, avec des appréciations diverses. Je voudrais conclure cette émission, puisque le temps qui nous est imparti est limité, par une... Il y a eu des... Puisque tout se termine en chanson en France, ça c'est supposé être tel. Il y en a un qui a parlé assez bien de mai 68, qui s'appelle Claude Nougaro, et qui évoque, à travers Paris, il n'était pas étudiant lui-même, il était trop vieux pour l'être à l'époque, puis ce n'était pas sa perspective, mais il évoque un peu l'aspect qui m'a intéressé dans mai 68, c'est-à-dire cette volonté d'exister, de liberté d'expression, même si ça paraît un peu ridicule de vouloir refaire le monde un peu, mais enfin, cet aspect noble, justement, de la pensée, d'essayer de penser par soi-même, ce qui est quand même un objectif tout à fait louable. Et il le dit assez bien pour dire qu'il veut rompre avec les carcans habituels, disons, des modes de pensée, de prêt-à-penser que l'on peut avoir sous des formes diverses et qui n'est pas imputable à un pouvoir, d'ailleurs, particulier. Ça pouvait s'établir sous n'importe quel régime politique, même s'il y avait des aspects un peu contraignants au niveau de l'information. Alors, on va terminer là-dessus, si vous voulez bien. Je cite Claude Nougaro.
Tu vas chanter aussi?
Oui, c'est ça.
Je ne vais pas chanter, non. Mais
bah
oui, il manque la musique.
Non, tout finit par des chansons.
Alors, la prochaine fois, on amènera justement...
Une de ton cru.
Voilà. Alors, il rappelle d'ailleurs le caractère éphémère du mouvement de mai 68. Au début, il dit « La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite, le vent a dispersé les cendres de Bendit. »
On a l'accent.
Et alors, pour finir, c'est la formule qui me paraît la plus significative, justement, qui dépasse les conflits de génération. Il dit « Je ne veux plus cracher dans la gueule à papa, je voudrais savoir si l'homme a raison ou pas. » Si je dois endosser cette guérite étroite, avec sa manche gauche, avec sa manche droite, c'est pas les oraisons, c'est les hymnes cramoisis, sa passion du futur, sa chronique amnésie. Voilà. C'est sur ces bonnes paroles de Nougaro que nous allons terminer notre émission sur mai 68.